Les médias, pour moi, c'est
des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière, il y a plein de choses, des techniciens, les micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération.
J'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Bonsoir à tous, Interclasse, c'est jusqu'à 21h. Cet établissement participe au dispositif mis en place par France Inter. Des élèves de seconde et de première font leurs premiers pas. Dans un métier bien difficile, je veux parler du journalisme, difficile parce qu'il est remis en question et pas forcément pour de bonnes raisons. Et quoi de mieux pour tordre le cou aux idées reçues que d'aller soi-même effectuer des reportages.
Interclasse saison 4, c'est un truc de ouf.
Let's go
sur France Inter.
Moi, au début où je suis arrivée ici, j'avais 3 arrondissements. J'avais mes bons bourgeois du 7e, comme je disais. J'avais mes bobos du 3e. Et puis, j'avais mon peuple du 19e. Je veux dire d'ailleurs que je préférais nettement mon peuple du 19e que le rififi chez les bourges ou les bourgeois intello qui avaient toujours de grandes idées mais parfois aussi pas mal de problèmes.
Extrait d'un reportage que nous entendrons tout à l'heure sur la justice des mineurs, hein, c'est la juge des enfants Sophie Huette, elle a son franc-parler, vous l'avez entendu. Ce soir, ils sont donc 21, je les ai comptés au studio 611 de Radio France. 7 d'entre eux sont déjà autour de la table, Jana, Amel, Donia, Farah, Alassane, Muriel et Rosette. Ils sont en classe de première au lycée Voileau d'Aulnay-sous-Bois, accompagné de 2 de leurs professeurs et de 3 journalistes de France Inter. Bonsoir !
Bonsoir !
L'égalité des sexes.
La liberté d'expression.
La colère.
Les gilets jaunes.
Le partage.
Vivre en France.
Vivre en France.
Vivre en France.
En 2019.
3 sujets, 3 reportages et donc 3 groupes d'élèves, hein, je vous l'ai déjà dit, autour de la justice des mineurs, un autre sur le football féminin et le 3e sur le cyberharcèlement. Delphine et Fanny, je voudrais d'abord vous saluer toutes les deux. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vais vous demander de vous présenter puisque vous êtes les profs. Alors, on commence par vous, Delphine.
Je m'appelle Delphine Ranciac, je suis professeure documentaliste au lycée Voileaume depuis 3 ans et c'est aussi la 3e année que je participe au dispositif Interclasse.
Et c'est un bonheur sans cesse renouvelé d'année en année ?
Tout à fait, c'est toujours aussi agréable d'arriver à la fin de l'année et de voir tout ce qu'on a accompli avec les élèves.
Et c'est surprenant, non ?
Oui.
De voir comme ils bossent bien quand même.
Oui.
Ouais.
Oui, oui.
Fanny ?
Oui, bonsoir, je m'appelle Fanny Soniman, je suis professeure d'histoire-géographie seulement depuis 2 ans au lycée Voileaume. Et c'est ma première année dans le dispositif Interclasse.
Alors, vos premières impressions ?
Vraiment extra.
Vous avez le droit de dire le contraire, hein ?
Oui, oui, mais c'est même pas besoin de mentir. Ouais. Non, pas du tout. Au contraire, c'est hyper stimulant comme projet à mener avec les élèves. C'est aussi pour moi la première fois que je fais un projet de long terme avec une classe. Et ça permet aussi une autre relation avec les élèves en faisant des sorties régulières. Ça permet de changer de cadre et quand même d'apprendre ces... Intéressant comme changement.
Alors, sans plus attendre la première séquence de l'émission, histoire de mieux connaître ou de découvrir Aulnay-sous-Bois, ces banlieues de vie avec vous, Fanny Léonore Crouzet.
Les deux pieds plantés dans le sol d'un square à Aulnay, chacun se demande comment c'était, sous bois, quand on pouvait se tenir là, sans voir ni tour ni toit. 1875 est l'année de l'implantation de la gare. Les premiers pavillons poussent, par sursaut, dans la partie sud, celle qui est proche de Paris. Aujourd'hui, elle concentre les logements les plus chics de la ville, devenus villages gentrifiés, de maisonnettes en briques et de jardins fleuris. Et on traverse la nationale pour arriver dans le nord. Le nombre d'étages augmente et cache un peu le ciel. La cité de la Rose des Vents, alias Cité des 3000, est achevée en 1970. À propos de ses bars et de ses tours, l'architecte Lionel Schein écrit « Aucune génialité dans le détail architectural, à la limite on n'en a pas besoin ». Mais des vis-à-vis, des liaisons, des rapprochements qui coupent le vide, qui le combattent, qui permettent des échanges, c'est l'essentiel. Jana et Amel, que vous allez entendre, habitent dans le nord, dans le quartier des étangs Merisiers, juste en dessous de la cité des 3000.
Là, on est à l'arrêt de bus, on vient de descendre du bus, alors on va se diriger vers mon quartier, je vais vous faire visiter.
Et c'est quoi ton quartier ?
Les étangs.
On va retrouver quelqu'un que tu vas me présenter là-bas ?
Oui, on va retrouver ma copine.
Qui s'appelle ?
Amel. Là, on est aux étangs. Alors, c'est 3 grands bâtiments.
Donc, des bâtiments, c'est des petites tours de 6-7 étages ?
C'est 8 étages, exactement.
8 étages.
Là, on est dans les côtés des jeux. En hauteur, il y a les terrains de foot. Alors, là, on va aller dans le côté des plus grands. Et là, il y a Amel, c'est ma copine.
qui nous attend sagement sur un banc. Oui. Bonjour, Amel.
Bonjour.
On a beaucoup parlé avant, là, hors micro, de la convivialité du quartier. En quoi le quartier des étangs et les cités autour sont-elles conviviales ?
Chaque année, y a des grandes cités, enfin nos grands frères, Ils louent des jeux gonflables, des chapiteaux pour qu'on fait des barbecues, on met de la musique.
Les grands frères ?
Bah, c'est nos grands frères, c'est des personnes qu'on respecte.
En fait, ce qu'on appelle les grands de la cité, c'est surtout ceux qui sont bien sûr plus grands que nous. Et parfois, ils peuvent même nous conseiller en nous disant de faire attention, travailler bien à l'école, c'est important l'école, des choses comme ça en fait.
Est-ce qu'il y a des grandes sœurs ?
Des grandes sœurs, en tout cas, on n'en voit pas dehors, ça c'est sûr.
Quelle est la place des femmes dans la cité où vous habitez, vous ?
Elle est plutôt réservée.
Réservée, ça veut dire quoi ?
Bah, en fait, on se montre pas trop. On veut pas être mal vu. En fait, on veut qu'on soit respecté.
Surtout en cité, des fois, on a des grands groupes de garçons, par exemple. Et voir une fille passer ou rester même à l'écart, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas respecté. Mais une fille, par exemple, qui va rester avec des garçons et tout, et c'est toujours ces clichés, hein, mais qui va rester avec un grand groupe de garçons, c'est un peu moins... On va mal la voir, en fait, c'est ça.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Jeanne ?
Moi, mon grand frère, il préfère que je sois chez moi que toi en train de traîner.
Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi ?
Moi, je trouve qu'il a raison. Parce que, par exemple, rester avec des garçons, traîner, ça sert à rien.
Et donc vous, est-ce que vous vous trouvez assez libre ?
Moi, oui. En fait, l'homme, il nous écoute aussi. Il nous dit si c'est bien ou pas, tu peux ou pas. Arrête, si par exemple, il nous dit non, tu fais pas ça, arrête, ils vont nous expliquer pourquoi.
Et vous vous souciez du regard des autres quand vous me disiez que vous pouviez être mal vu si vous traîniez qu'avec des garçons ? Toi, Amel, oui ?
Souvent, et parfois même de nos propres frères et sœurs musulmans, en fait, qui pensent pas... C'est vrai, hein ? Des fois, surtout, par exemple, moi, on me dit, ouais, par exemple, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Par exemple, parce que je suis voilée, donc j'ai pas le droit d'aller sortir ou des choses comme ça. Mais ce que la plupart même des musulmans n'ont pas compris, à ce que je vois, c'est que dans le Coran, la plupart des choses que nous ne pouvons pas faire, une femme musulmane et non voilée n'a pas le droit aussi de le faire.
Amel et Jeanne, vous êtes déjà autour de la table. Amel, je te voyais... Tu permets que je te tutoie ?
Oui. Oui.
Je te voyais faire une drôle de tête. Ça fait drôle de s'entendre, non, la première fois ?
Oui, c'est
oui,
bizarre un
c'est
peu.
C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ?
Bah, quand on tourne le reportage, on parle sans se dire comment ça va rendre. Et quand on écoute après, des fois, on est fiers de nos réponses. Des fois, on aimerait rajouter des choses aussi, mais... Si, ça fait bizarre.
Mais d'abord, un, tu peux être fière de ce que tu as dit. Et deux, tu as parfaitement le droit. T'es là pour ça ce soir, justement. On va pouvoir ajouter des choses. Sur les grands frères aussi, ce que vous dites des grands frères. Alors, vous êtes assez obéissante, non ? Vous faites un petit peu comme ils vous disent de faire ou c'est moi qui ai mal compris ?
Pas obéissante, mais respectueuse. C'est pas vraiment le même terme. Enfin, on respecte ceux qui ont vécu plus de choses que nous parce qu'ils peuvent toujours nous apporter plus dans notre avenir.
Moi, je vous trouve très sage. Donia, est-ce que c'est ton cas aussi ? Et Farah, je peux te poser la même question. Tu obéis aussi, que ce soit à des parents, à des grands frères ?
Bah, parents, oui, parce que c'est mes parents, c'est ma mère qui m'a mis au monde, donc oui, c'est sûr. Mais après, obéir aux frères, enfin aux grands frères, c'est... J'écoute ce qu'ils me disent, après c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire. Si j'écoute, bah ok, mais si j'en ai pas envie, bah je le ferai pas en fait.
Rosette ?
Quand vous dites grande sœur, c'est par rapport à la cité ou par rapport à la famille ?
Ah ben justement, ben dis-moi, qu'est-ce que tu considères toi comme une grande sœur ? C'est dans ta famille ou c'est dans la cité ?
Bah déjà, je traîne pas trop à la cité, j'ai pas de grand frère. Le grand frère de la cité, entre guillemets, bah, pour moi, c'est pas trop mes exemples, je sais pas pourquoi je vais les écouter. Ils sont là à traîner, ça m'intéresse pas trop. Donc je préfère rester chez moi.
Ouais. Il y a une dernière chose que je voulais vous demander aussi autour d'Aulnay-sous-Bois, c'est que dans le reportage, on entend, dans Banlieue de Vie, on entendait qu'il y a vraiment un nord et un sud. C'est-à-dire que au sud, il y a les gens qui sont dans des... Je sais pas, c'est plus qu'au sud, j'en sais rien. Et au nord, c'est les cités et ça se croise jamais. Vous n'allez jamais au sud. Vous restez vraiment au nord d'Aulnay ? Oui, Farah ?
Je trouve que c'est plus convivial dans le nord. Après, les gens du sud, ils vont pas venir chez nous parce que, je sais pas, ils vont avoir peur ou autres, ils vont penser que c'est trop ghetto, mais nous on trouve chez eux c'est ennuyé, parce que chez nous il y a de l'ambiance, on va dire.
Et chez eux c'est froid ?
C'est Donia ? Trop bourgeois. Enfin, je trouve que c'est trop bourgeois. En fait, ils se font des préjugés sur nos cités, et nous on se fait des préjugés sur leur cité. Enfin, les cités, sur... Je trouve que...
Sur leur zone.
Ouais, voilà.
Mais tu crois pas que si vous arriviez à vous parler, bah, peut-être que ça ferait tomber les préjugés ? Peut-être que vous vous trouveriez des endroits très gais chez eux et qu'eux, ils seraient hyper contents que vous les invitiez chez vous.
Ouais, mais il faut faire le premier pas maintenant.
Ben alors, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. C'est comme en amour, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas.
Honnêtement, j'ai rien à faire au sud, moi.
Non, vous voulez pas, vous préférez rester au nord. Les autres, c'est pareil. Muriel,
si tu veux venir, tu viens, mais si tu veux pas, tu restes chez toi.
Ouais, mais si tu veux venir, je t'accepte. Bah, je t'ouvre mes portes.
Bien sûr.
Ah ben c'est ça, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter là? Je sais qu'on va écouter un peu de musique. D'ailleurs, c'est vous qui avez choisi ce premier extrait d'un CD qu'on va écouter. Nasser, tu es le porte-parole du groupe. Tu vas nous dire ce que c'est.
Donc, on va écouter Moni de Nino et Fauzia.
Une vie d'un compliqué, je voulais des gros lovés, des billets colorés tout en vert. Une vie d'un compliqué, je voulais des gros lovés, des billets colorés tout en vert. Un amour monnayé, est-ce que j'irai là-haut ou j'irai tout en bas en enfer? Et j'ai jamais regretté, personne en ingrata que personne ne voulait écouter. On a ramené la moulaga, y'a des bosseurs OP pour tartiner toute la journée. Et je suis dans le bloc, bébé, je sais même pas si j'aurai le temps d'aimer. Mes joies et mes peines posées sur le CD, et je vais toujours me rappeler de ce qu'on s'est dit. Et les couteaux dans le dos transperceront mon cœur, pété sous vodka, j'oublierai tout. Et pour surmonter tout ça, fallait beaucoup d'honneur, faut que je m'en aille avant que je devienne fou. On aura tout voulu, on n'aura pas tout eu, malgré tout ça on était heureux. Je croyais qu'il était déchiré, mon cœur est recousu, mes blessures apaisées par l'euro. Je croyais qu'il était déchiré, mon cœur est recousu, mes blessures apaisées par l'euro.
Yeah, you've got it all now. Got that money in your pocket, blow it all now. Tell me how does it satisfy the empty kind of feeling I know you feel at night. Yeah, you've got it all now. Got that money in your pocket, blow it all. Oh, tell me how does it satisfy the empty kind of feeling I know you feel at night.
Une vie d'un compliqué, je me devais de répliquer. Elle s'est battue pour m'éduquer, mais on m'avait dit que les ennemis reviendraient pour m'éradiquer. Donc je serai calibré, je vois des chiffres et des chiffres comme Galilée. Mais je suis resté humble, je sais pas de quoi est fait demain. On n'a pas toujours fait le bien, mais la famille est fière de moi. Et je préfère crever tout de suite plutôt que crier aidez-moi. C'est mon côté vaillant, laisse les faire les voyous. Les têtes on les connaît, le reste c'est des suiveurs. Et si tu veux vraiment tout savoir, j'ai lu mon navire tout au fond de ce verre. Et les billets verts m'apportent d'autres saveurs. Ouais, les billets verts m'apportent d'autres saveurs. Hein, on n'emportera rien sous la terre. Les plus solidaires finiront solidaires. Un jour ou l'autre, ils la mettront. Pour une chatte kilométrée. Dis-moi si je dis vrai ou faux. Je les observe calés dans le fond. Mon destin n'est pas comme les autres. Je suis devenu ce que je voulais être. Je vois le temps passer sur la montre. Sans lutter, je dois la mettre.
Yeah, you've got it all now. Got that money in your pocket, blow it all now. Tell me how does it satisfy the empty kind of feeling I know you feel at night. Yeah, you've got it all now. Got that money in your pocket, blow it all. Satisfy the empty kind of feeling I know you feel at night.
Nasser, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui vous plaît à vous qui écoutez ça? Est-ce que c'est dans cette chanson, est-ce que c'est la mélodie, c'est les paroles, c'est la voix?
Bah, ce qui nous plaît, c'est comme ce que vous avez dit, donc la voix de la jeune fille.
Elle est très jeune?
Qui est très jeune, exactement, et la mélodie qui est assez douce.
La douceur, t'aimes bien?
Ouais, c'est doux.
Interclasse.
Ça va, ça se passe.
Sur France Inter.
Premier reportage effectué donc par des élèves de première du lycée Voilhomme d'Aulnay-sous-Bois, c'est la justice des mineurs. Chaque année en France, près de 380 000 mineurs sont pris en charge par la justice. Alors ce sont soit des mineurs qui sont en danger ou alors des mineurs qui ont commis des actes de délinquance. Direction le tribunal pour enfants dans le nouveau palais de justice du 17e arrondissement de Paris.
Le nouveau palais de justice de Paris est un immense bâtiment vitré, très impressionnant avec ses 38 étages et ses 160 mètres de haut.
Après avoir passé les contrôles de sécurité, nous arrivons dans le grand hall du tribunal, un endroit très lumineux avec beaucoup de monde.
Nous sommes accueillis par Sophie Huette, qui est juge des enfants.
On va monter dans ce qu'on appelle l'immeuble de grande hauteur, l'IGH, où notamment il y a au 11e étage le tribunal pour enfants, et où les juges des enfants reçoivent dans leur bureau. Les parents, les mineurs qui sont convoqués à l'instance éducative prennent comme vous un badge et montent au 11e étage.
Nous devons encore franchir plusieurs portiques de sécurité jusqu'au tribunal pour enfants.
Ouverture des portes.
Voilà, on sort tous. Sophie Huette nous fait découvrir les coulisses de son métier qu'elle exerce depuis 20 ans.
Dans l'enceinte du tribunal pour enfants. Allez-y, ouvrez la porte, il n'y a pas de contrôle. Un juge des enfants, lui, ça a deux domaines de compétences, l'assistance éducative et le pénal. Donc un juge des enfants au pénal, ça c'est peut-être le plus simple à comprendre. Le juge des enfants juge les mineurs qui ont commis des actes de délinquance et il juge les mineurs mis en cause pour avoir commis des crimes de moins de 16 ans. Ça c'est le pénal. Et puis il y a le volet assistance éducative, on peut dire que c'est le civil. Et là, ce qu'on appelle l'assistance éducative, c'est les mineurs qui sont en difficulté dans leur famille, en danger. Et le juge des enfants organise des mesures d'aide éducative pour aider les familles à mieux s'occuper des enfants.
À Paris, il y a au total 15 juges des enfants. Sophie Huette s'occupe du 19e arrondissement, un quartier défavorisé avec des problèmes de délinquance, du trafic de drogue et des règlements de comptes entre bandes rivales qui font parfois des morts.
De nouvelles bagarres de bandes à Paris.
Et c'est là, comme en témoignent des traces de sang sur le trottoir, que le jeune homme s'est écroulé, victime donc d'une rivalité entre bandes du 19e et du 20e arrondissement de Paris.
J'ai vu pas mal de jeunes, enfin un certain nombre en tout cas, mourir dans des histoires de rixes. Donc c'est un arrondissement qui est assez remuant. Moi, au début où je suis arrivée ici, j'avais 3 arrondissements. J'avais mes bons bourgeois du 7e, comme je disais. J'avais mes bobos du 3e. Et puis j'avais mon peuple du 19e. Je veux dire d'ailleurs que je préférais nettement mon peuple du 19e que le rififi chez les bourges ou les bourgeois intello qui avaient toujours de grandes idées mais parfois aussi pas mal de problèmes. Là maintenant, je n'ai plus que le 19e qui est donc un arrondissement où il y a beaucoup effectivement de délinquance.
Contrairement à d'autres pays, en France, les mineurs qui ont commis un délit peuvent être en théorie poursuivis par la justice, quel que soit leur âge.
La loi française, ce qu'elle dit, c'est qu'on ne peut pas poursuivre un enfant qui n'a pas le discernement nécessaire. Qu'est-ce que c'est que le discernement ? Se rendre compte de ce qu'on fait. En gros, voilà, on peut dire que c'est ça. Vers 3-4 ans, on sait bien ce qui est rouge et ce qui est bleu. Et puis, on sait aussi vaguement, même dès l'école maternelle, que piquer le goûter d'un copain à la cantine, ça se fait pas. Mais est-ce qu'on a conscience à ce moment-là que c'est un vol, puni par l'article 311 du Code pénal ? Ça, je pense pas. Donc, le discernement, c'est un discernement juridique. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de seuil d'âge pour poursuivre quelqu'un. Il y a des seuils d'âge pour aller en prison. Un enfant de moins de 13 ans ne peut pas aller en prison.
Le juge des enfants est aussi là pour protéger les mineurs maltraités aux victimes de violences sexuelles.
Quand je suis entrée dans cette fonction, les premiers mois, ça a été très difficile. Parce que justement, c'est une fonction où on voit quand même beaucoup de choses, de la misère humaine, de la souffrance. Et on n'est pas des robots, on n'est pas des machines à rendre des décisions.
Jugez-vous parfois contre cœur ?
On peut hésiter à prendre une décision, bien évidemment. Le doute, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit toujours habiter le juge. C'est-à-dire, est-ce que je vais prendre la bonne décision ? Notamment sur un placement. Un placement, c'est quelque chose de très grave. Séparer un enfant de sa famille, parfois, si c'est un placement notamment d'un bébé, ça peut arriver qu'on retire un bébé à sa mère, notamment. Moi, j'estime que c'est une décision des plus graves qui soient, parce que ça engage vraiment la vie d'un tout petit et de ses parents. Mais une fois qu'à un moment donné, il faut arrêter de douter, parce que sinon, on ne serait pas juge. Donc, à un moment donné, on prend la décision. Et quand on la prend, on a la faiblesse de penser que c'est la bonne.
En France, chaque année, près de 170 000 mineurs sont pris en charge par les services de la protection judiciaire.
C'était un reportage d'Alassane Graviria,
Kadja Djagouraga,
Evran Attès,
Nordine Amara,
Rosette Moussama,
Aïssa Toussilla,
Muriel Esso,
Loubna Sebian.
Et sous la houlette de Yann Gallic de France Inter. Rosette, tu peux nous expliquer déjà comment vous avez choisi ce sujet, qui est un sujet, comment dire, c'est assez lourd quand même.
Déjà, pour moi, j'ai une vocation, enfin, je voudrais bien plus tard travailler avec des enfants dans la justice. Et on s'est lancé. Et c'était très intéressant pour tout le monde, je pense.
Est-ce que vous avez été impressionné quand vous êtes, en arrivant déjà à ce nouveau tribunal de grande instance, la porte de Clichy, c'est le nouveau siège? Il est imposant, non, Muriel?
On s'attendait à quelque chose de plus ancien, mais c'était très moderne, très lumineux. C'était très grand. Voilà, donc on s'attendait pas à ça.
Comment là, s'est passée la rencontre avec Sophie Huette, la juge des enfants là? C'est intéressant ce qu'elle dit, non?
Elle était très ouverte et aussi drôle. C'était très intéressant de parler avec elle parce que on a peut-être tous ici une image un peu négative de juge. Ouais, juge trop mal. Et elle était vraiment, Elle était très dynamique aussi et c'est très intéressant de parler avec elle. Et c'est vrai qu'on nous a dit, quand elle juge, bah, elle est toute seule. Elle a la vie des personnes dans sa main. Enfin, en vrai, elle décide bah oui ou non, en fait. Et elle doit être très juste quand elle juge. Et c'est quand même un métier très, très compliqué, on va dire.
Muriel, la prison pour les... Là, j'en reviens au problème de délinquance, mais la prison pour les jeunes, c'est quelque chose qui peut faire peur.
Enfin, ça dépend de quel jeune. En fait, si, comme on dit, t'es un jeune de cité, bah, ils s'y attendent un petit peu, du coup, ça fait pas peur. Mais si c'est des jeunes un petit peu bourgeois, c'est sûr, ça va être... Enfin, je sais pas.
Non, mais c'est très intéressant ce que tu réponds, parce que ça veut dire pour les bourgeois, c'est plus un choc, quoi.
Oui,
s'ils se retrouvent en prison, c'est un choc.
Oui.
Et pourtant, jeunes des cités ou bourgeois, s'ils se retrouvent en prison, c'est quand même qu'ils ont fait une bêtise.
Oui, mais c'est toujours vu différemment, c'est comme ça.
Alassane, est-ce que tu penses que la prison, c'est une bonne chose, c'est une bonne punition pour des... Je parle pour des jeunes.
Hein. Non, c'est mieux de faire des travaux, ou de les faire insérer dans la société, réinsérer dans la société.
Alors comment quel genre de travaux, par exemple, il faudrait faire à ceux qui ont des choses à se reprocher?
De les faire trouver des formations et tout.
C'est plus une question d'éducation?
Oui. Après, quand on est trop enfermé, quand on ressort, on est trop décalé de la société.
Ouais. Nasser, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que la prison, ça sert à quelque chose ou pas?
Je pense personnellement que la prison sert à quelque chose. Enfin, si les jeunes partent en prison, c'est parce qu'il n'y a pas eu les parents derrière eux, et que quand un enfant, il n'y a pas son père derrière, il fait ce qu'il veut dans sa tête, c'est tout permis.
Donia, qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
Ah, mais clairement, pour moi, la prison, ça sert strictement à rien. Parce que, honnêtement, il y a des personnes, bah, ils sont accusés, ils savent très bien ce qu'ils font, donc ils savent très bien qu'ils vont peut-être être chopés tôt ou tard, mais il va faire son terme, il va ressortir, il va refaire la même chose. Donc, pour moi, ça lui sert à rien, la prison.
Ah oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu aurais comme solution à proposer?
Bah, je sais pas, comme il a dit, ouais, lui remettre dans la société, lui trouver un travail, mais au moins, bah, je sais pas, peut-être, ça se trouve, il a pas fait d'études dans sa vie, il a foiré sa vie, donc après, bah, entre guillemets, comme on dit nous, bah, c'est la rue, quoi.
Para?
Moi, je trouve que c'est ridicule. Moi, pour moi, la prison, c'est une leçon. Après, s'ils sortent de la prison et ils recommencent, c'est qu'ils ont pas compris. Moi, personnellement, je trouve que la prison, c'est bien. Ça les prive de tout, ça les fait réfléchir. S'ils sortent, ils recommencent, c'est qu'ils n'ont pas compris. Et que ça y est, ils sont perdus dans leur tête. Et sinon, s'ils sortent et ils trouvent du travail, ils se remettent en question, bah, tant mieux pour eux.
Mais s'ils sont perdus dans leur tête, comme tu dis, est-ce qu'à un moment donné, il faut essayer justement bah, de les aider?
Bah, après, c'est eux qui auront un déclic. S'ils n'ont pas le déclic de changer, ça n'arrivera jamais.
Et à 18 ans, je vais m'adresser à toi, Rosée, parce que toi, tu as 18 ans.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui change quand on a 18 ans?
Après, vu que moi, je suis au lycée, ça passe un peu, vu que bah, j'y vais à l'école. Donc, ma mère, elle me nourrit, elle me loge. Donc, mais après, elle me met la pression pour aller travailler, pour avoir un code, pour avoir le permis.
Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut faire quand on a 18 ans, quand on devient majeur? Vous avez une idée de ce qu'on peut faire?
On peut voter.
Exactement, on peut voter, on peut passer son permis de conduire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Bon, on peut travailler maintenant, on est majeur.
Exactement. On peut se marier?
Oui, ça c'est autre chose par contre.
Para, ça te fait sourire?
Ah, mais c'est pas maintenant le mariage. Hein. On n'est pas encore grand qu'on pense déjà au mariage.
Vous auriez envie de vous marier un jour?
Bah oui.
Bah oui. Non, c'est bon, c'est une fierté un peu. Genre c'est bon, on n'est plus chez maman, papa. On est dans la vie réelle, on a un travail, on a un foyer, on a des enfants. Bah, pas pour moi, mais je sais pas.
Tu veux pas d'enfants, toi, Donia?
C'est pas mon objectif, en tout cas.
Ça veut dire vraiment, t'en veux pas
non,
ou bien?
Non, j'ai pas dit que j'en voulais pas, mais j'ai juste dit que c'était pas mon objectif.
Mm-hmm. Un métier avant tout, Donia?
Bah oui.
Une situation.
Oui, une situation avant tout. De nos jours, bah, sans métier, sans de revenus, je vais pas dire qu'on est rien. Mais un peu quand même. Grâce à un travail, bah, on peut avoir un logement, on peut payer notre loyer, bah, on peut manger, on peut s'habiller. Donc pour moi, c'est d'abord un métier.
Alors tout à l'heure, le DJ, c'était Nasser. Maintenant, ça va être Farah. Qu'est-ce qu'on va écouter, Farah?
On va écouter Still Dre de Dr. Dre et Snoop Dogg. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nigga.
Guess who's back? Still, still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. If you ain't up on
things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to the feet, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acrobatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give
still,
to the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch,
yes.
Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still, hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back.
So if you ain't up on things,
Dr. Dre be the name, still running the game. Still, got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get mine regardless.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies, add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air. Well, use a fool, D.R.
On vient d'écouter Still Ray de Dr. Dre et Snoop Dogg.
Interclasse.
C'est de la bombe
sur France Inter.
C'est de la bombe et c'est du football. Football féminin en l'occurrence. On a beaucoup parlé à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de la FIFA en France. Et on a beaucoup parlé des Bleus qui ont été particulièrement déterminés. Le groupe qui a travaillé sur le reportage est précurseur puisque vous avez choisi ce sujet au cours de l'hiver dernier, donc bien avant. On l'écoute puis après eh bien, vous nous apporterez vos commentaires.
Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir si nombreux. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du Festival Football.
Quelle place pour le football féminin dans notre société ? C'était le thème d'un après-midi de rencontre au Carreau du Temple à Paris. Pour entrer dans le sujet, un documentaire appelé « Un vrai sport de gonzesse » est projeté.
J'étais un de ces gamins qui rêvait de faire du foot à un métier.
un métier d'homme. Le ballon à la récré, c'était pour les garçons. Des filles dans nos équipes, hors de question.
Dans le public, trois quarts de la salle pratiquent le football. Parmi les amateurs du ballon rond, les filles sont en minorité. Dans son documentaire, le réalisateur Farid Haroud retrace l'histoire du foot dit « féminin » et dénonce la sous-représentation des femmes dans ce sport.
C'est-à-dire que quand on connaît l'histoire de ce sport, on remarque qu'il y a deux traitements. Il y a le traitement pour les hommes et il y a le traitement pour les femmes. Et force est de constater qu'il est inéquitable. C'est-à-dire qu'on a interdit la pratique du foot féminin, du foot pour les femmes. On n'a jamais interdit la pratique du foot pour les hommes. Derrière tout ça, il y a aussi l'histoire de la quête des droits de la femme. Parce que si on fait le parallèle entre les deux, on s'aperçoit qu'il y a un copier-coller, sauf que le foot, il exacerbe tout. C'est tout, mais plus. C'est tout, mais plus fort, et tout est plus clair.
Une coupe du monde de foot féminine non officielle se tient à Mexico en 1971. Il faudra attendre plus de 20 ans pour que le foot féminin soit reconnu par la Fédération internationale de football. La première Coupe du Monde officielle se tient en Chine en 1991.
The first FIFA Women's World Championship for the M&M's Cup.
La première Coupe du Monde officielle, elle date de 91. Mais les femmes, elles ont essayé d'en faire avant. Mais on interdisait au pays d'y participer. C'était les clubs qui représentaient les nations. Le Stade de Reims a été championne du monde de foot féminin, vous le savez ça?
À la fin de la projection, nous rencontrons Sandrine Dussant, ancienne joueuse internationale de football et gagnante de la Ligue des Champions. Sandrine Dussant a arrêté son activité sportive il y a 3 ans. Depuis, elle est membre de l'association Footdel, association qui organise le festival où nous sommes et cherche à promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le football.
Mais cette égalité est loin d'être atteinte. Par exemple, Neymar, attaquant pour le Paris Saint-Germain, touche environ 3,6 millions d'euros par mois, soit 90 fois plus qu'Ada Egerberg, qui joue à Lyon et qui a emporté la première édition du Ballon d'Or féminin. Acteur important dans les salaires des joueurs et joueuses, les sponsors.
Vous attendez que les femmes aient beaucoup plus de sponsors ?
C'est possible. En tout cas, moi, quelque part, personnellement, je l'espère aussi un peu, parce que cette Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de donner de la visibilité aux footballeuses. Et donc, tout est lié, quelque part. S'il y a plus de visibilité, on intéresse davantage les sponsors parce qu'ils savent qu'eux aussi auront plus de visibilité. Donc c'est un cercle vicieux, je pense. Mais en tout cas, la Coupe du Monde peut aider à ça. Parce qu'effectivement, les matchs vont être diffusés sur TF1, sur Canal+, on en parle un peu partout. Le fait que ça soit justement en simultané dans plusieurs villes en France, ça fait encore grandir l'engouement et l'intéressement autour du football pratiqué par les femmes. Donc oui, je pense qu'il peut vraiment y avoir des intérêts économiques derrière aussi.
Hors micro, Sandrine Dussant nous parle des inégalités qu'elle a rencontrées pendant sa carrière de footballeuse. Elle reste tout de même optimiste pour ses futurs concerts.
Clairement, on sent qu'il y a eu une vraie évolution, que les esprits s'ouvrent au fur et à mesure des années, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut permettre aux jeunes filles de pouvoir aller jouer au foot encore plus simplement, de trouver des clubs encore plus proches de chez elles, et puis tout simplement de faire en sorte qu'elles soient bien dans leur basket, enfin, bien dans leur crampon.
Nos deux interlocuteurs encouragent les femmes et les filles à suivre le chemin des filets, sur le terrain comme dans la société.
Tant que pour une petite fille, ça sera compliqué de trouver un club, tant qu'il n'y aura qu'un club sur 10 qui aura une section féminine, moi je dis que c'est pas gagné. On est sur une bonne passe, il faut juste continuer à la transformer en très bonne passe.
C'était un reportage de Farah Hachemi, Sofiane Nagy, Adil Elmazouar, Ryan Kiroun, Abdelrahman So, Abderrahman Ben Abelkader, Donia Zawi, avec les journalistes Adrien Palouet et Nasser Madji.
Voilà, Adrien Palouet de l'Institut pratique du journalisme et Nasser Madji de France Inter. Bonsoir Nasser Madji.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous.
C'est la première année que vous participiez à Interclass ?
Ouais, absolument. Moi, avant de bosser sur ce sujet, sur le foot féminin, on a essayé avec certains lycéens de d'Aulnay-sous-Bois du lycée Voyem de travailler sur le rap et on n'y est pas arrivé. On a essayé de solliciter Fianso, on a essayé de solliciter Kobalade, on a essayé de voir avec Niska, ça n'a pas marché.
Aucun n'a répondu à vos demandes, vos sollicitations.
Quand on a sollicité par mail ou par téléphone les managers ou les boîtes de prod ou les maisons de disques, oh, c'est génial, France Inter, ce que vous faites avec les jeunes, c'est super. Et puis 10 jours après, on avait un petit mail en nous disant mais non, là ils sont en promo, ça va être compliqué, et puis et ça a duré pendant des semaines. Juste pour dire que c'est vraiment pas simple, et ça finalement apprend aussi à ces jeunes qui essayent de toucher du bout du doigt le métier de journaliste que non, des fois ça fonctionne pas. Donc ça je voulais le dire parce que c'est aussi finalement une petite leçon j'imagine qu'ont vécu les lycéens qui ont travaillé avec nous cette année. Sur le foot féminin, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'essayer d'avancer un petit peu et de pas faire un truc très classique sur le foot féminin, les salaires. Le reportage de Farid Haroun, c'était aussi sur la visibilité des femmes dans l'espace public. C'était un sujet de fond à travers le prisme du football féminin, mais c'est un sujet très intéressant sur l'égalité, en fait, hommes-femmes dans la société. C'est ce qu'on a voulu leur faire entendre.
Donia et Farah, est-ce que vous aviez une idée justement de cette corrélation dont vient de parler Nasser Madji qu'il y a entre la place des femmes dans le football et la place des femmes dans la société en général ?
C'est toujours les hommes et les femmes en dessous. Il n'y a jamais d'égalité entre hommes-femmes. Bah, c'est pareil pour le foot.
Farah, qu'est-ce que tu penses de ça, toi ?
Bah, elles vivent de leur passion. Après, bien sûr que oui, les footballeuses, elles ont eu du mal à s'identifier dans le foot. Et elles y arrivent petit à petit. Même les féministes, elles doivent être super contentes pour ça. Donc, ouais, c'est des batailles qu'elles gagnent de plus en plus.
Mais c'est très, très intéressant ce que tu viens de dire sur l'identification. C'est-à-dire que quand on n'a pas eu avant soi des gens pour dire « tiens, je veux devenir comme un tel ou un tel », on est un peu dans le désert, donc il faut inventer quelque chose, c'est ça ?
Ah bah, c'est sûr que maintenant, il y a des filles de notre âge, des plus petites filles, qui peuvent se dire « Oh, je vais être footballeuse comme telle ou telle. » Alors qu'avant, elles sont devenues footballeuses pour le plaisir et pour leur passion. Et elles n'avaient aucun exemple, à part les hommes.
Oui, Nasser Madji.
Je voulais vous poser une question. Vous avez quel modèle féminin Vous avez quel modèle féminin? Est-ce que c'est dans la musique? Est-ce que c'est Aya Nakamura? Est-ce que c'est non, tu fais la grimace, c'est pas Aya Nakamura. Est-ce que c'est dans le sport? Est-ce que c'est dans la politique? Ça m'étonnerait. Mais quels sont les modèles féminins aujourd'hui qui vous font rêver ou qui vous inspirent?
Moi, honnêtement, Simone Veil. Hein.
Ah ouais.
Ouais.
Joli modèle.
Ouais. De ouf. Ouais, beaucoup.
De ouf, t'allais dire. Elle te plaît de ouf.
Non, mais je l'aime bien.
Pourquoi?
Je trouve qu'elle a hyper servi pour les femmes.
Rosette, tu aurais qui alors pour répondre à la question de Nasser?
À part ma mère.
Personne. Bah, c'est bien d'avoir sa mère pour modèle.
Ouais.
Alors je vais demander à Vincent Pellegrini de nous rejoindre à cette étape parce que Vincent Pellegrini, il est donc journaliste à Radio France. Il a travaillé avec un autre groupe d'interclasse, sur le cyberharcèlement. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il pense de ce qui a été dit au sujet du football féminin, Vincent. Sur le fait qu'il n'y ait pas de visibilité déjà des femmes.
C'est très spectaculaire la façon dont le football féminin a été médiatisé, enfin l'est en tout cas de plus en plus, disons depuis 5-6 ans à peu près, c'est-à-dire que il y a encore 10 ans, le football féminin était invisible dans les médias. On n'en parlait jamais à la radio, il n'y avait pas d'articles dans les journaux. Bon, par exemple, j'ai commenté il n'y a pas très longtemps un match de Ligue des Champions, quart de finale, Paris Saint-Germain-Chelsea. Il y a 3-4 ans, il y aurait eu peut-être 2 ou 3 journalistes. Là, il y avait une trentaine de journalistes, dont beaucoup d'ailleurs de journalistes britanniques, qui étaient plus nombreux que les journalistes français. Il y avait toute la radio française, quasiment toute la presse écrite. Donc, bien évidemment qu'on part de très loin. Mais les choses évoluent très vite.
Nasser Madji, il faut peut-être quand même dire une chose et jouer la transparence, comme on dit, c'est que cette émission, elle est enregistrée, évidemment, puisque en plein mois d'août, les élèves sont en vacances et que donc, on ne sait pas encore très bien comment les Bleus peuvent se déterminer, peuvent se classer.
Hein. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas, pas fait un reportage. Ils n'ont pas fait un reportage, ces élèves, purement sportifs et qu'on voulait aller plus loin que ça, effectivement. Voilà. Croise les doigts, comme on dit.
Et on va écouter, en attendant et tout en croisant les doigts, on va écouter PNL et puis vous nous direz après si vous aimez ou pas Deux Frères.
On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel-Air. Flocant vêt Ford Mustang dans la légende. La police d'une à 6 étoiles a toujours se dire Bel-Air. Trop gentil comme Cody, sentiment dans la salle du temps. Il était une fois deux frères, deux fauves, deux trous. Dans le cerveau, poteau de père. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise. Emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Esprit de gosse caché derrière le fait. Pris d'ambition en stagnant devant élevé.
Salaire de bas que chaque soir dans les Nike. Bénéf de la bœuf qui part dans le mic. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel, pas plus d'une étoile, en face du trône. Des grammes, des kills de peine mènent dans le bel. Deux frères, deux fauves, le M. Deux frères, deux frères, deux frères, deux frères. Mais faudra t'y faire à l'idée. Rien à foutre, c'est quand un des boîtes sera de merde. D'autres qui t'auront validé. Même plus besoin, viscère de la qualité d'un PVR. De la force au calme, ok, ok, allez, c'est l'heure. J'ai grandi dans le zoo, je suis vécu dans la jungle, n'est pas de grand frère. Papa nous a cogné tête contre tête, nous a dit je veux un amour envers. Personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé. Et à part les nombres de cicatrices, rien ne va changer. Dans les mêmes miroirs, on s'est regardé. Dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré. Quand des petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes. Même Niax, même terrain, Igo, les mêmes Chilagbo. Jamais les mêmes femmes, moi c'était les belles blondes. Lui les vénézuéliennes, moi dehors lui qui tombe. Rien ne nous sépare, même pas nos bitches. Tout ce que je prends, je te le donne un peu comme envie. Toi qui sais ce que je vis, que moi qui sais ce que tu vis. On s'est dit c'est l'heure de les baiser si on fusionnait. Deux frères, deux frères.
C'était PNL, deux frères. Alors, il se trouve que Evran est assis à côté de moi. Il est super beau, leur clip. Hein.
Oui, très beau.
Et t'aimes bien les paroles? T'aimes bien ce qu'ils chantent?
Oui, j'aime bien.
C'est pas dans cette chanson-là, c'est dans une autre chanson. À un moment donné, il se met la main sur le cœur. Il se dit « Oh, j'ai le cœur qui fait oulala ».
Oui, c'est dans ODD.
Ouais, ah, tu connais tout par cœur. Toi aussi, quelquefois, t'as le cœur qui fait oulala?
Bah, des fois, oui.
S'il y a une fille qui passe devant toi dans la rue, t'as le cœur qui fait oulala?
Si elle me plaît, oui.
Ah, bah, c'est très bien.
Interclasse.
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 Sur France Inter.
Dernier reportage d'Interclasse avec le lycée donc Wallum d'Aulnay-sous-Bois. Le cyberharcèlement en milieu scolaire, c'est un phénomène en expansion dont les pouvoirs publics ont commencé à prendre la mesure.
Il y a 6 ans, Marion Fraisse, 13 ans, se suicide après avoir été victime d'harcèlement scolaire au collège. Quelques mois plus tard, sa mère, Nora, crée l'association Marion la main tendue.
Dans le but d'aider ceux qui n'avaient pas pu aider notre fille et de trouver des solutions. J'ai écrit un livre qui s'appelait Marion, 13 ans pour toujours. Et à la fin de ce livre, je faisais des propositions. Et je me suis dit, je vais aller plus loin et je vais essayer de faire en sorte que ce que je propose soit mis en place. Et donc, je me suis dit, comment faire? J'ai cherché des associations en me disant, je vais leur proposer mes solutions. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas, mais on peut les partager. Et je n'ai pas trouvé d'association qui correspondait à ce que je voulais faire. Eh ben, j'ai dit, je vais en créer une. Et du coup, j'ai créé une page Facebook. Ça, c'est plutôt simple. Ça m'a permis d'attirer du monde. La sortie du livre m'a permis de faire connaître. Et puis, j'ai été rapidement appelée par les écoles, par les parents. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'association a cette ampleur. Mais ça veut dire qu'avec rien, des idées, de la volonté, on peut changer beaucoup de choses. Ouais.
Le harcèlement en milieu scolaire a toujours existé. Mais depuis la création des réseaux sociaux, ce phénomène a pris de l'ampleur. Témoin de cette évolution, Mounir Majoubi, ancien secrétaire d'État chargé du numérique et député du 19e arrondissement de Paris.
C'est pas des nouveaux problèmes, c'est les mêmes problèmes qu'avant, sauf qu'avec Internet, ils durent 24 heures sur 24, ils durent 7 jours sur 7. Les chiffres, ils explosent parce que maintenant, la pratique, elle est généralisée d'être présent sur Internet avec sa classe, avec son groupe d'amis, qu'on passe de plus en plus de temps à l'intérieur, et surtout, on y projette beaucoup plus de soi-même. Et quand on projette plus de soi-même et que ça devient très important, les conséquences, elles deviennent encore plus graves. Donc, en fait, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des cas qui vont trop loin. Et c'est ça qui est en grande augmentation. C'est le nombre de collégiens très jeunes, et même à l'école primaire.
Malheureusement, les jeunes personnes harcelées ont du mal à en parler à leur famille et à leurs proches. Il faut donc que ces derniers soient très vigilants, explique Nora Fraisse.
C'est très compliqué parce qu'un enfant sur deux n'en parle pas à ses parents parce qu'il est empreint de culpabilité et de honte. Donc il y a des signaux. Et moi je dis c'est un changement brutal de comportement. Par exemple, un enfant qui adorait le sport et qui veut plus y aller, ça veut dire que peut-être il veut pas rencontrer d'autres enfants qui lui font du mal. La perte de matériel. Souvent il perd du matériel, il demande à ce qu'on lui rachète, mais peut-être qu'il y a du racket, peut-être qu'on lui a abîmé son sac. Quand on est un témoin enfant, eh ben, si on voit que cette personne est isolée dans la cour, mange seule, vraiment c'est un changement de comportement. Mais l'isolement, le fait d'être tout seul, c'est un des signaux forts. Un enfant qui est petit, qui n'est pas invité aux anniversaires, qui est tout seul dans la cour, on peut le voir très très rapidement.
Les derniers gouvernements, et plus généralement le monde politique, se penchent de plus en plus sur le cyberharcèlement en milieu scolaire. Parmi les amendements votés récemment, l'un concerne les harceleurs mineurs. Erwan Balanan, député MoDem du Finistère.
Aujourd'hui, pour condamner quelqu'un qui fait du harcèlement, on passait tout de suite sur des sanctions pénales très lourdes. Et sur les mineurs, la justice des mineurs est particulière dans notre pays, et c'est très bien, parce qu'elle est censée protéger les mineurs. C'était extrêmement plus difficile de condamner un mineur. Donc avec l'amendement qu'on a mis en place, on va pouvoir plus facilement condamner par des peines adaptées aux mineurs les enfants qui font du harcèlement. Voilà, donc là, ce qui est proposé, c'est sans doute, parce que ça va se mettre en place avec le gouvernement, des peines d'accompagnement et de stage de sensibilisation. Parce que c'est extrêmement important pour un enfant de comprendre qu'est-ce que c'est le harcèlement. Parce que parfois, il ne sait même pas. Et c'est ça qui sera travaillé avec ses enfants.
Même si certaines lois ont été votées depuis plusieurs années, cela n'est pas suffisant pour Erwan Balanan. Il faut une prise de conscience collective.
La loi ne pourra pas tout faire autour de ça. Il y a toutes les questions de la sensibilisation, la pédagogie, apprendre aux enfants, apprendre aux parents aussi qu'on ne harcèle pas, que c'est des choses qui sont très graves. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut faire au fil du temps. Et la loi n'est pas la seule à permettre ce genre de choses. C'est aussi la prise de conscience des professeurs, mais ça, je pense qu'elle existe. La prise de conscience des parents et puis aussi la prise de conscience des enfants que vous êtes, enfin enfant ou adolescent, de se défendre contre ces pratiques qui sont inadmissibles.
Ce reportage sur le cyberharcèlement en milieu scolaire a été réalisé par Afaf Majnewi, Amel Chikoun, Jana Amous, Sania Ibrahima et pour finir, Lamine Fofana.
Sous la houlette de Vincent Pellegrini. Je dis ça parce que sinon il va me crier dessus, n'est-ce pas, mon cher Vincent? Amel, c'est un sujet lourd hein, là que vous avez choisi, le cyberharcèlement. Vous n'êtes pas attaqué à n'importe quoi. Comment est-ce que vous l'avez choisi?
D'abord, on voulait surtout choisir un sujet qui nous concerne en soi parce que c'est le cyberharcèlement en milieu scolaire. Donc, ça peut arriver à n'importe qui, hein, à un ami ou même une connaissance. Et on voulait sensibiliser sur ce sujet.
Toi, par exemple, quand tu dis que ça peut arriver à une connaissance, tu as une amie à laquelle c'est déjà arrivé?
Oui, j'ai une amie qui a été victime de cyberharcèlement. Du coup, ça a été très dur pour elle. Et
le harceleur, il était dans son lycée?
Non, c'était des harceleurs, en fait. C'était sa classe.
Et elle se faisait insulter comment?
Par exemple, lors de l'appel, c'était des petits chuchotements derrière, ou quand elle devait se lever au tableau, pareil. Des petits rires ou des petites insultes, mais vraiment très, très discret, on va dire. Et après, ça a continué chez elle, sur les réseaux sociaux. Et voilà.
Et aujourd'hui, elle va mieux?
Oui, aujourd'hui, elle a changé de lycée. Mmh. Elle va beaucoup mieux. Dans son lycée, elle s'est fait de nouveaux amis. Tout va bien pour elle maintenant.
Jana, tu as travaillé, hein, toi aussi, dans ce groupe?
Oui.
Et comment ça s'est passé, la rencontre avec, par exemple, Mounir Majoubi? Vous avez été un petit peu impressionnée?
Oui, c'est impressionnant car c'est une grande personnalité, mais il était assez sympa, on a eu un feeling qui est passé. En fait, il n'y avait pas de gêne quand on parlait, parce qu'il nous mettait à l'aise, il voulait nous apprendre à nous connaître, nous. On n'avait pas de ce statut où lui, il est plus haut que nous. C'est-à-dire, il se mettait au même statut que nous, il voulait nous apprendre qui on était nous-mêmes, ce qu'on faisait en dehors de ce projet. Donc, le feeling est passé.
Où est-ce que vous l'avez rencontré?
On l'a rencontré dans un café, sur Paris, là où il fait ses rendez-vous, et voilà.
Donc sympa?
Très sympa.
Ouais. Afaf, qu'est-ce que tu penses du sujet? Est-ce que tu, comme Amel par exemple, tu connais des gens qui se sont fait harceler? Est-ce que toi-même tu l'as déjà été?
Non, je ne connais pas personnellement des gens qui ont été déjà harcelés, mais en discutant avec une amie hier,
qui m'a dit que le cyberharcèlement est très récurrent. Donc peut-être qu'on a déjà vécu cette situation, mais on l'a minimisée. Du coup, on ne se dit pas que c'est du cyberharcèlement, mais ça l'est réellement. Mmh. Et du coup, on n'en parle pas.
Et le fait de ne pas en parler, évidemment, ça isole encore plus ?
Pour certaines personnes, oui, mais pour d'autres, elles passent outre.
Et toi, Hamza, comment est-ce qu'on peut régler une situation de cyberharcèlement, là, comme celle dont on a parlé ?
Le cyberharcèlement ou le harcèlement tout court, c'est compliqué parce que, en fait, c'est le fait de mettre une personne à l'écart et c'est un groupe entier qui commence à harceler une personne. Et le plus dur pour la personne qui se fait harceler, bah, c'est d'en parler, je pense. C'est compliqué. C'est compliqué. Et d'en parler à ses parents, c'est ça le plus compliqué. Parce que d'en parler à des professeurs, je pense que c'est un peu plus facile, parce que c'est pas de la famille.
T'as déjà assisté, toi, à des situations comme ça de harcèlement ou de cyberharcèlement ?
Oui, j'ai assisté, mais pas aussi grave qu'un suicide ou des choses comme ça. Au collège, mais c'était plus de l'amusement. Je pense que les harceleurs, ils font pas ça pour... Personnellement, je pense ça. Hein. Ils font pas ça pour qu'à la fin, il y ait un suicide ou quelque chose. C'est plutôt pour s'amuser. Mais à la fin, il y a des choses dramatiques qui se passent.
Tu veux dire qu'ils se rendent, le harceleur, il ne se rend pas forcément compte de ce qu'il fait.
Il ne se rend pas forcément compte. Mmh. Aussi, il y a l'effet de groupe. Des gens un peu timides qui réussissent à rentrer dans un groupe et se faire remarquer. Mmh. En gros, ils se moquent de quelqu'un. Il a plus de notoriété, plus d'influence dans le groupe.
Est-ce que vous pouvez comprendre finalement le geste de Marion, c'est-à-dire le fait que l'isolement devient tel à un moment donné, parce que se suicider, c'est quand même absolument dramatique et définitif. Sania, est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus, sur ce geste qu'elle a eu ?
Moi, je pense que Marion, elle aurait pu trouver de l'aide autour de ses proches, comme ses parents, sa famille, les profs ou bien son CPE. Mais après, je comprends, parce que d'un autre côté, elle était jeune, elle avait 13 ans, et peut-être qu'elle avait honte d'en parler.
Sur la honte, ça c'est intéressant, parce que ça rejoint d'autres sujets sur lesquels vous n'avez pas forcément travaillé, mais par exemple, quand une femme se fait violer, elle peut avoir honte de dire qu'elle s'est fait violer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez imaginer, Afaf ?
Bien sûr. Surtout que pour les femmes violées, par exemple... On dit souvent que c'est la faute de la femme. Tiens, t'as mis une jupe trop courte. Tiens, fallait pas que tu t'habilles de cette sorte. Du coup, ouais, elle a honte d'en parler. Parce qu'on va toujours rejeter la faute sur elle.
Hamza ?
Au collège, j'ai eu des cours d'EMC, d'éducation morale et civique, sur ce sujet. Et je trouve que, aussi, l'État, par exemple, la scolarité au collège, au lycée, on n'a pas assez d'heures d'éducation morale et civique. On en a, mais ce n'est pas forcément porté sur des sujets aussi importants comme le harcèlement et bien d'autres.
Justement, alors la place que ce genre de sujet peut avoir dans le cadre d'une classe, Delphine Rancillac et Fanny Senimon, c'est intéressant d'avoir votre avis, là, l'avis des deux professeurs. Est-ce qu'on a le temps d'en parler? Et si oui, comment est-ce qu'on le fait?
Pour ma part, effectivement, c'est les cours de MC qui permettent un peu cette souplesse et qui permettent d'aborder un peu des interrogations d'élèves, parce que pendant les cours d'histoire géo, on a un programme qui est quand même très dense à assurer. Or, par exemple, les cours de MC, ils sont en demi-groupe, donc c'est vraiment des temps privilégiés. Où on peut plus aborder des thèmes variés. Et souvent, on prend, malgré le fait qu'il y ait des thèmes qui soient imposés, on prend quand même le temps d'en parler.
Delphine Rancillac, quand on voit où une élève allait mal, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel est le rôle d'un prof à ce moment-là ? Quelle est sa marge de manœuvre ?
Ben, comme les élèves, alors pour nous, c'est toujours délicat parce qu'on voit que les élèves vont mal, mais on ne sait pas toujours comment leur apporter notre soutien si eux, ils ne font pas la démarche de venir nous voir. Moi, ça arrive des fois, comme je les vois pas en cours, que les élèves viennent me voir pour me parler de tout et de rien, et des fois de choses très graves, et des fois de choses beaucoup plus légères.
Et des fois de choses légères, parce qu'ils sont quand même plutôt joyeux, on va pas finir sur une note grave.
Voilà. Et après, c'est vrai que moi, j'ai pas de cours, j'ai pas de programme à moi. Parfois, il y a des projets qui se font en collaboration avec le CDI, c'est souvent l'occasion soit de monter des vidéos, soit de faire des affiches, des choses comme ça, donc des campagnes de sensibilisation, justement. Mais ça reste quand même... assez épisodique et exceptionnel. Mais ce n'est pas généralisé systématiquement à toutes les classes, tout un niveau. Mais bon,
mais en tout cas,
ça se fait quand même.
Il n'y a pas de sujet tabou.
Non.
Et c'est ça qui est bien. Interclasse, c'est déjà fini puisque je vois l'heure qui tourne. Au revoir à tous. Merci à Lauriane Toulmont qui a réalisé cette émission, à Fanny Léonore Crouzet, la cheville ouvrière d'Interclasse. Merci à Charles Leca pour la prise de son, à Muriel Pérez pour la programmation musicale. Et merci à vous tous, donc les élèves de première du lycée Voilhomme d'Aulnay-sous-Bois, ainsi qu'à vos professeurs et aux journalistes qui vous ont accompagnés. Après le flash de 21h, place à la musique, les grands concerts d'Inter, c'est avec Mélanie Bauer.